19h30, temps universel. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 26 septembre. Idrissa Sedoudia et Claire Morin-Gibourg en direct du studio 13 de la Voix de l'Amérique à Washington. Bonsoir Idrissa.
Bonsoir Claire.
Au sommaire ce soir, l'Afrique de l'Ouest est dépassée par l'épidémie d'Ebola selon le président Barack Obama qui a reçu les représentants de 44 pays à la Maison Blanche.
Au Cameroun, l'avocate Lydienne Yen Eyoum condamnée à 25 ans de prison pour détournement de fonds.
Affrontement fratricide entre pirates somaliens, la pomme de Discord, la rançon reçue en échange de la libération d'un otage occidental.
9 membres présumés d'une cellule de recrutement pour l'État islamique arrêtés au Maroc.
Pendant ce temps, poursuite des frappes aériennes de la coalition contre les positions de ce groupe en Syrie et en Irak.
Et nous aurons les sports avec Jacques Aristide et la musique de Roger Montou en fin d'émission. Pour l'instant, le journal.
Le président américain Barack Obama a estimé vendredi que l'Afrique de l'Ouest était dépassée par l'épidémie de fièvre Ebola et que le monde ne devait plus jamais permettre à une telle tragédie d'avoir lieu. C'est à l'issue d'une rencontre à la Maison Blanche avec le représentant de 44 pays, Jean-Roger Bion.
Au lendemain de son appel lancé jeudi aux Nations Unies, le président américain Barack Obama appelle à nouveau à agir plus vite et avec plus de détermination pour enrayer l'épidémie d'Ebola qui frappe l'Afrique de l'Ouest. Les systèmes de santé publique sont prêts de s'effondrer, a-t-il prévenu, à l'occasion d'un sommet mondial sur la santé organisé à la Maison-Blanche, rappelant que la croissance économique ralentissait et que le gouvernement était sous pression. Barack Obama a déjà ordonné l'envoi de 3000 militaires américains en Afrique de l'Ouest, avec un commandement régional à Monrovia, la capitale du Libéria. Il a également déployé les ressources des centres fédéraux de contrôle et de prévention des maladies, les CDC, pour aider à vaincre l'épidémie, qui a fait près de 3000 morts sur un peu plus de 6000 cas, essentiellement en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. L'OMS a annoncé la disponibilité de milliers de vaccins expérimentaux début 2015 et sur le terrain, la Côte d'Ivoire envisage d'autoriser à nouveau les vols avec les pays affectés.
Fin de la brouille entre le Mali et le Fonds monétaire international, le FMI a affirmé vendredi que le Mali avait résolu les problèmes de transparence révélés par l'achat d'un avion présidentiel pour 40 millions de dollars en mai. Couplé à un contrat militaire sans appel d'offres, l'achat du jet du président Ibeka avait entraîné la suspension des prêts du FMI. Le fonds affirme aujourd'hui que Bamako a pris les mesures adéquates et a donné son prêt accord pour le déblocage de 2 nouveaux prêts qui pourraient s'élever à 12 millions de dollars.
Au Rwanda, l'ancien chef de la garde présidentielle rwandaise et un général en retraite, accusé d'incitation au soulèvement contre le pouvoir du président Paul Kagame, ont plaidé non coupables devant un tribunal militaire de Kigali. Ces arrestations et celles récentes de journalistes et d'un célèbre artiste ont suscité de nombreuses questions sur un durcissement du régime.
Au Maroc, 9 membres présumés d'une cellule de recrutement pour le groupe État islamique ont été arrêtés à Nador et dans l'enclave espagnole de Melilla. Michel Joseph.
C'est la coopération entre les forces de sécurité espagnoles et marocaines qui a conduit au démantèlement d'une cellule terroriste active à Nador, dans le nord du Maroc, et dans l'enclave de Melilla, selon le ministère de l'Intérieur marocain. L'enquête a démontré qu'ils étaient en contact avec les membres de 2 cellules démantelées en mai 2013, qui avaient des liens avec Al-Qaïda au Maghreb islamique, dans le nord du Mali. Le groupe s'appuyait sur l'expérience djihadiste d'un ex-militaire espagnol, spécialiste dans le maniement d'armes et d'explosifs. Il avait rejoint le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, le Moujao, au Mali, en 2012, selon les autorités espagnoles. Il combattrait actuellement dans les rangs de l'État islamique en Syrie et en Irak et servait de coordinateur de cette structure. Selon le ministère marocain de l'Intérieur, la cellule tenait des entraînements physiques spéciaux et était impliquée dans différentes activités dont la contrebande pour financer le départ des futurs combattants de l'État islamique. Selon Rabat, 1500 à 2000 Marocains combattent avec les djihadistes en Syrie et en Irak.
En Somalie, des pirates se sont entretués lors de violents heurts qui ont opposé hier soir des membres d'un même groupe. Au moins 3 d'entre eux ont trouvé la mort. Ils se disputaient la rançon obtenue en échange de la libération d'un journaliste germano-américain. Les précisions de Jacques Aristide.
La fusillade a éclaté dans la région de Galkayo, véritable repère de pirates, où avait été enlevé le reporter Michael Scott Moore en janvier 2012, avant d'être libéré il y a seulement 3 jours. Selon la police somalienne, les pirates se sont vivement affrontés à coups de fusils mitrailleurs, un camp accusant l'autre de trahison pour avoir mené des négociations secrètes pour la libération du journaliste, un des chefs du groupe et parmi les 3 personnes tuées. Pour Billy Hussein, qui dirige un autre groupe de pirates et qui s'est confié ce vendredi à des agences de presse, les échanges de tirs ont commencé après le refus de quelques-uns des pirates de partager le butin et d'ajouter qu'une rançon d'$1,6 million avait été versée par des intermédiaires somaliens agissant pour l'Allemagne. Le ministère allemand des Affaires étrangères n'a toutefois pas confirmé le paiement d'un tel montant. D'après des sources sécuritaires, une 40aine de personnes sont toujours entre les mains de ravisseurs somaliens, pour la plupart des pêcheurs de pays qui n'ont ni les moyens d'envoyer leur armée à leur rescousse, ni de payer des rançons.
Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les pays industrialisés font l'objet d'une hausse des demandes d'asile depuis la Syrie, l'Irak et d'autres zones de conflit. Camille Grosdidier.
Le tout dernier rapport du HCR constate que 330 700 personnes ont déposé une demande de statut de réfugié dans les pays industrialisés entre début janvier et fin juin. Ce nombre représente une augmentation de 24% en un an. À ce rythme, l'année 2014 pourrait voir jusqu'à 700 000 demandes d'asile déposées, soit le chiffre le plus élevé pour les pays industrialisés en 20 ans et un niveau inédit depuis le conflit dans l'ex-Yougoslavie dans les années 1990. La communauté internationale doit préparer ses populations à cette réalité. Quand l'absence de solution au conflit, de plus en plus d'êtres humains auront besoin de refuge et d'entretien dans les mois et les années à venir, a déclaré le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Antonio Guterres. Plus des 2/3 des nouvelles demandes ont été déposées dans seulement 6 pays, l'Allemagne, les États-Unis, la France, la Suède, la Turquie et l'Italie.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Il est 19h43, temps universel, vous êtes bien à l'écoute de la voix de l'Amérique. Des avions, des drones et d'autres appareils américains ont continué de bombarder aujourd'hui des positions de l'État islamique en Irak et en Syrie. Idriss Fall.
Selon CENTCOM, le commandement central américain, 4 chars ont été détruits dans la province syrienne de Deir ez-Zor. Selon un groupe suivant la situation sur le terrain, ce sont des installations pétrolières qui étaient la cible de ces raids et l'Observatoire syrien des droits de l'homme signale qu'un centre de commandement de l'État islamique a été atteint. Dans le nord de la Syrie, on voit dans des vidéos postées dans des médias sociaux des combattants kurdes lancer des attaques contre des positions de l'État islamique près de la ville de Kobani. La chaîne CNN de son côté a montré en direct de l'autre côté de la frontière en Turquie des combattants de l'État islamique se déplacer à travers une colline près de Kobani tout en échangeant des tirs avec, semble-t-il, des combattants kurdes. En Irak, selon CENTCOM, il y a eu 7 attaques contre divers blindés et plusieurs autres véhicules près de Kirkuk à l'ouest de Bagdad, la capitale est près d'Al-Qaïm.
La Maison-Blanche s'est réjouie vendredi que le Royaume-Uni, le Danemark et la Belgique aient décidé de rejoindre la coalition militaire contre le groupe État islamique en Irak. Nous accueillons favorablement le vote du Parlement britannique autorisant Londres à prendre part aux frappes aériennes, a déclaré le porte-parole de la Maison-Blanche, Josh Earnest. Mais comme le Danemark et la Belgique, le Royaume-Uni ne mènera pas de frappes en Syrie.
Le secrétaire d'État américain John Kerry, son homologue iranien Javad Zarif et la chef de la diplomatie européenne Catherine Ashton tiennent aujourd'hui une seconde journée de pourparlers visant à trouver un accord sur le nucléaire iranien. Les 3 hauts responsables s'étaient rencontrés hier à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. L'Iran est 6 puissances mondiales, États-Unis, Grande-Bretagne, France, Russie, Chine et Allemagne doivent, avant la date butoir du 24 novembre, arriver à un accord qui permettrait une réduction des sanctions contre Téhéran.
Aux États-Unis, la croissance économique a connu d'avril à juin son taux le plus rapide depuis plus de 2 ans et demi, ce qui est un très bon signe pour le reste de l'année. Le département du commerce lui a revu aujourd'hui en hausse au second trimestre son estimation du PIB américain qui a été annualisé et qui passe de 4,2% à 4,6%. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique, présenté par Idrissa Sedoudia et Claire Morin-Gibourg. À la réunion de haut niveau d'hier à l'ONU sur l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, le président Barack Obama a appelé la communauté internationale à agir avec plus de détermination pour enrayer la maladie. Les États-Unis continueront de jouer un rôle central dans la lutte contre l'épidémie, mais celle-ci doit être une priorité pour tout le monde, a souligné le chef de l'exécutif américain hier à New York. Pour une réaction, George Leonard Sagno a joint à New York le docteur Saran Daraba Kaba, secrétaire général de l'Union du fleuve Mano, regroupant le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone, les pays les plus touchés par l'Ebola.
J'ai été particulièrement impressionnée par la sincérité du président américain quand il dit « la communauté internationale n'a pas encore fait assez » et n'est pas intervenu assez vite. Ça résume un peu la réalité. Le président Obama, en s'engageant au nom de son pays et de son peuple, a apporté tout le soutien aux 3 pays qui sont les plus durement affectés par Ebola, a aussi dit quel est le rôle de leadership que les États-Unis veulent jouer dans la mobilisation globale contre cette maladie. Il a dit que Ebola peut être vaincu et que les populations qui sont affectées aujourd'hui attendent d'être appuyées, d'être aidées pour vaincre la maladie. Et il dit que non seulement la communauté doit le faire, mais elle peut le faire.
L'Amérique, en plus de l'assistance financière, les États-Unis ont promis d'envoyer 3000 soldats dans la sous-région pour aider ces pays durement touchés. Comment appréciez-vous ce geste des États-Unis?
Ce qui est important, c'est d'agir massivement pour stopper la maladie. N'oublions pas, il y a à peine 10 ans, ces pays sortaient de guerres civiles extrêmement douloureuses et extrêmement coûteuses. Et un peu plus de 10 ans pour la Sierra Leone et 10 ans pour le Libéria. Aussi, l'arrivée brutale de cette maladie qui met en cause tous les acquis de ce qui a été fait ces 10 dernières années, doit nous interpeller au plan mondial. Et c'est en cela que le discours du président Obama est le bienvenu, je dirais, et opportun.
Docteur Saran Daraba Kaba, secrétaire général de l'Union du fleuve Mano, jointe à New York.
La Voix de l'Amérique en Guinée, à Conakry, sur Sabari FM, Soleil FM, Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Radio Milo FM à Cancan et Sigiri, Radio Liberté FM à Nzérékoré et Radio Bolivar FM à Mamou.
En Centrafrique, la Cour pénale internationale vient d'ouvrir une enquête sur les diverses violations des droits de l'homme qui ont eu lieu pendant les derniers événements qui ont secoué le pays. À cet effet, notre correspondant à Bangui a pu joindre par téléphone à Douala le procureur de la République, Ghislain Grézengue, qui déclare que la justice centrafricaine est également à pied d'œuvre afin d'aider la CPI. Quant à ce qui concerne les carences de la justice centrafricaine, il affirme que cela est dû aux derniers événements qui ont secoué le pays. Écoutons son entretien avec notre correspondant à Bangui, Thierry Momba.
Mais de toute façon, j'ignorais qu'il y a eu des violations très graves en ressources africaines qui, inévitablement, devaient entraîner la compétence de cette cour. Quand bien même que la Cour internationale pénale s'intéresse à la situation de la République centrafricaine, la justice centrafricaine ne peut pas croiser les bras et des enquêtes sont également ouvertes sur place à Bangui concernant ces diverses situations de violations.
Est-ce que vous pouvez travailler dans les conditions normales?
Quoique le pays a été secoué par des crises récurrentes, au jour d'aujourd'hui, on peut quand même se réjouir de ce que la paix est en train d'être de revenir à grands pas. On ne peut rien faire si nous sommes dans une situation de conflit. Mais aujourd'hui, je crois savoir que à Bangui, la justice travaille normalement. Du côté de Berbera Tiboire, les audiences se tiennent. Les autres localités vont ainsi emboîter le pas.
Certains de vos collègues magistrats se plaignent du fait qu'il y a encore l'insécurité qui règne en Centrafrique et ne pourraient se permettre de trancher certaines affaires de flagrant délit. Et il y a également le problème de compétences qui se pose parce que certaines juridictions ont perdu tous leurs matériaux et si bien que les présumés coupables sont transférés ici à Bangui et ça pose réellement problème. Que répondez-vous à cela?
Je ne peux pas se voiler la face pour dire que aujourd'hui tout marche bien. Comme vous le dites si bien, il y a certaines juridictions qui ne peuvent même pas œuvrer eu égard à tout ce qu'ils ont connu comme pillage. Cette situation est une réalité. Certaines juridictions sont totalement paralysées. Pour ce qui concerne les cas des audiences de flagrant délit, ce que nous avons connu, c'est aussi progressivement que nous allons retrouver l'équilibre normal pour que les choses fonctionnent normalement. Ce n'est pas avec un coup de baguette magique que demain les choses répondront automatiquement.
Monsieur le procureur, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier. Merci.
Eh bien, c'était le procureur de la République, Ghislain Grézengue, qui répondait aux questions de notre correspondant à Bangui, Thierry Momba.
En Mauritanie, malgré une disposition du code pénal fixant l'âge légal du mariage à 18 ans, des adolescentes sont, selon l'expression usitée, données en mariage avant leurs 18 ans et parfois à des hommes très âgés. Notre correspondant à Nouakchott, Brahim Dia, a essayé de mieux comprendre les causes des mariages précoces en Mauritanie. Écoutons son reportage.
Épouser une jeune fille procure une sorte de second souffle, de seconde jeunesse, dit-on ici, ce qui, entre autres, pousse certains hommes à choisir des conjointes enfants. Pourquoi en Mauritanie continue-t-on de donner en mariage des adolescentes? Pour les causes, nous avons rencontré le professeur Abdoulaye Dorosso, sociologue chercheur.
La famille, comme le groupe familial, n'aimerait pas que la fille fasse un acte, un dérapage qui puisse salir toute la famille, entre guillemets, comme on le dit. Donc très tôt, la fille se marie, moins elle aura à être victime de la tentation et de plaisir de la chair et de donner un enfant en dehors des liens de mariage.
Parmi les causes des mariages précoces, il y a aussi le souci de maintenir la fille dans le groupe ethnique.
Dans ces sociétés, c'est la femme qui est la gardienne des valeurs, c'est la femme qui éduque les enfants, c'est la femme qui continue la mémoire historique et linguistique. Donc on fait tout pour que la femme, elle reste dans le groupe ethnique.
Parfois, les mariages précoces ont des raisons purement matérielles.
L'argent prend de plus en plus d'importance. Eh bien, des fois, on donne sa fille en mariage parce que simplement le demandeur, quel que soit l'écart de l'âge, est nanti et la famille aussi peut donner comme ça la fille en mariage précoce pour des raisons purement matérialistes.
L'idée est répandue selon laquelle les hommes, ils préfèrent ou ils préféreraient les plus jeunes.
En fait, les hommes ont une très grande responsabilité. La plupart des hommes s'amusent. Et au moment de se marier, il demande une fille vierge. La maman dira, je vais exciser ma fille, comme ça elle restera tranquille, j'aurai un preneur vierge. Sinon, aujourd'hui, compte tenu de la modernité et de la mobilité sociale de la fille, il est certain que la virginité est en train de se dégrader. Donc aujourd'hui, les demandeurs de la virginité ne peuvent aller se loger que dans des fillettes de 14, 15 ou 16 ans.
Mais il arrive aussi que des adolescents soient contraints d'aller au charbon très très tôt.
Le père décède, le garçon qui a un fils unique, on le fait marier tout de suite. La lignée paternelle doit être continuée. Un jeune est candidat à la migration. Ce sont ses parents qui financent le projet de voyage. Pour l'empêcher de se marier à l'étranger, on lui dit le financement de son voyage est lié à une condition, une clause claire, c'est qu'il se marie avant de partir. Si le gosse il a moins de 18 ans ou de 16 ans, ce n'est pas important, l'essentiel, on lui donnera une femme en mariage.
Brahim Dia, Nouakchott, pour La Voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Les avions de combat américains et arabes ont bombardé ce vendredi pour la troisième journée consécutive des raffineries contrôlées par le groupe État islamique en Syrie. Le Maroc a annoncé l'arrestation de 9 membres présumés d'une cellule de recrutement pour ce groupe. Selon Rabat, 1500 à 2000 Marocains combattent avec les djihadistes en Syrie et en Irak. Qui sont les étrangers qui viennent grossir les rangs de l'État islamique? Idriss Fall a joint le professeur Khattar Aboudiab de l'Université Paris Sud.
Si on se réfère au discours du président Obama aux Nations Unies, on parle de 15 000 personnes. Mais si je fais d'autres calculs, la somme de gens qui viennent pour le djihad sunnite, style Qaïda, Daesh, etc., peut-être ça peut dépasser une vingtaine de milliers de personnes. Il ne faut pas oublier les autres djihadistes pro-iraniens chiites. Il y aura aussi une vingtaine de milliers. Donc, grosso modo, il y a presque 40 000 personnes qui sont quelque part en Syrie ou en Irak.
Mais ils viennent de quel pays?
Par exemple, pour l'axe chiite pro-iranien, ils viennent de l'Afghanistan. On les enroule pour 400 ou 500 dollars par mois. Du Pakistan, de l'Iran, de Bahreïn, de l'Irak et du Liban. Concernant les autres, les djihadistes sunnites, ils viennent de la Tchétchénie, de Caucase, de pays européens comme la France, l'Espagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, ainsi que de pays musulmans et arabes, de l'Indonésie jusqu'à la Tunisie. Mais les grands contingents, ce sont les Maghrébins d'un côté et les gens de l'Asie centrale, des anciennes républiques de l'URSS.
Mais qu'est-ce qui différencie l'État islamique et Al-Qaïda?
Il y a de petites divergences dans l'action. Surtout, Al-Qaïda, ça aurait été un projet plus central, plus universel, entre guillemets. Mais l'État islamique à ses débuts en Syrie, en Irak, ça a été plutôt régional. Il y a aussi un côté anti-chiite à cause de problème avec l'Iran. Et donc, avec la proclamation des califats par Abu Bakr al-Baghdadi, Daesh devenait plus ou moins comme l'incarnation ou le paroxysme de l'évolution du djihadisme salafiste, du djihadisme planétaire, au point d'effacer Al-Qaïda, au point que plusieurs groupes proches d'Al-Qaïda commençaient à faire allégeance à cet État islamique.
Même en Algérie, ceux qui ont décapité l'otage français.
Exactement. C'est un petit groupe en Algérie qui s'appelle les soldats des califats qui a fait allégeance à Daesh. Et dans cette surenchère meurtrière, ils ont commis l'irréparable en tuant les touristes français.
C'était le professeur Khattar Aboudiab de l'Université Paris Sud. Et maintenant, avec le polyvalent Jacques Aristide, Washington Forum, et tout, enfin, ce qu'on fait ici.
Vous me vendez, Grisa, arrêtez.
Alors, c'est la ligne de départ, hein, pour le
bonsoir,
sport.
Bonsoir, Idrissa, bonsoir, Claire, bonsoir à toutes les auditrices et tous les auditeurs qui nous écoutent.
Voilà, nous allons commencer avec Joseph Blatter, le Suisse, qui se représente à la présidence de la Fédération internationale de football.
Eh bien oui, l'homme de 78 ans, à la tête de la FIFA depuis 1998, briguera un cinquième mandat. L'élection se tiendra le 29 mai l'année prochaine. Après le retrait du français Michel Platini, Joseph Blatter n'a pour l'heure aucun adversaire de taille. Pour ce qui est du fameux rapport d'enquête sur les allégations de corruption dans l'attribution des Coupes du Monde 2018 à la Russie et 2022 au Qatar, le patron de la FIFA a déclaré aujourd'hui qu'il demeurerait secret, rejetant ainsi la requête du rédacteur du document, Michael Garcia, ancien procureur fédéral de New York, de le rendre public.
Ok, football africain, les finalistes des compétitions interclubs seront connus à l'issue des demi-finales retour ce week-end.
Eh bien, en Ligue des Champions, l'ECS Sfaxien reçoit AS Vita Club après s'être incliné à l'aller par 2-1 en RDC. Dans l'autre demi-finale, le tout-puissant Mazembe accueille les Algériens de Sétif, victorieux à l'aller par 2-1. Le tenant du titre de la Ligue des Champions, Al Ahly du Caire, est engagé dans l'autre compétition, la Coupe de la Confédération. Le club égyptien affronte ce week-end Coton Sport de Garoua.
Football en Afrique toujours, nous connaissons la date pour le tirage au sort de la phase finale de la CAN 2015.
Oui, il aura lieu le 26 novembre à Rabat au Maroc, pays hôte de cette Coupe d'Afrique des Nations 2015. Quatre groupes de quatre sélections seront tirés au sort.
Pour rester sur le continent, nous devrons connaître ce week-end les sept pays qualifiés pour la phase finale de la CAN des moins de 17 ans. Niger 2015, à l'issue des matchs retour.
Oui, le champion du monde en titre, le Nigeria, tentera de rattraper le but du match aller face au Gabon. Même scénario pour le Togo, battu à l'aller par la Guinée 1-0. La Côte d'Ivoire et l'Angola, partout à l'aller, feront tout pour renverser la vapeur. À noter également le déplacement de l'Afrique du Sud en Égypte. Les autres rencontres au programme, le Cameroun croisera le fer avec le Ghana. L'Ouganda affrontera la Zambie et le Mali sera aux prises avec la Tunisie.
Bon, ce n'est pas votre faute, Jacques, mais faute de temps, lors de la première édition, nous n'avons pas pu parler de basketball mondial dames qui débute demain en Turquie.
Voilà, quand même, il faut faire place aux dames basketball. Alors, les 16 pays qualifiés sont répartis dans quatre groupes avec, dans le groupe A, Brésil, République tchèque, Japon et Espagne. Groupe B, Canada, France, Mozambique et Turquie. Groupe C, Australie, Bélarus, Cuba et Corée du Sud. Et groupe D, Angola, Chine, Serbie et États-Unis.
Pour terminer, Jacques, en cyclisme, résultat aujourd'hui des Mondiaux Espoirs.
Oui, la boucle est bouclée. C'est le Norvégien Sven-Erik Bistrom qui a remporté ses championnats du monde des moins de 23 ans ce vendredi à Ponferrada en Espagne. Vous voyez, j'essaie de faire le double R des Espagnols. Alors, il a conservé quelques secondes d'avance sur le premier peloton réglé par l'Australien Caleb Ewan. Au terme des 182 km, soit 10 tours de circuit, un autre Norvégien, Christopher Skjerping, a décroché la médaille de bronze.
Alors, au lieu de dire merci, on dira muchas gracias.
De nada.
My younger me, away your medicine, away your medicine, away your medicine.
On passe à la page musicale avec Roger Muntu. Salut Roger.
T'aimes bien le blues, hein?
Moi, personnellement, c'est une de mes musiques favorites.
Et si je te disais que c'est un Camerounais, Tchakoundé qui est en train de jouer ce morceau?
Franchement, première oreille, tu m'aurais dit à l'aveugle, comme ça, d'où il vient, j'aurais pas pu le dire.
Mais attends, je sais que t'aimes bien l'artiste nigérien. J'aime beaucoup sa musique. Quand tu compares un peu ce que nous écoutons en ce moment, Claire, tu crois que c'est un peu...
Moi, ça me fait tout de suite penser au Mississippi, ça me fait tout de suite penser au blues américain. Et c'est vrai qu'immédiatement, je ne ressens pas les vibrations africaines.
Exactement. Hein. Et c'est bien dit parce que l'artiste qui joue en ce moment, Claire, le Camerounais, il s'est inspiré de Jimi Hendrix, de beaucoup d'autres artistes américains. Hein. C'est pour ça, en fait, il y a ce feeling-là même dans cette chanson que nous sommes en train d'écouter. Et c'est le blues Menace Man.
Merci beaucoup, en tout cas.
De rien, Claire.
But you wouldn't talk me. Your medicine. Ah, hold on.
Ainsi s'achève le monde aujourd'hui. Yemi Obadjimi a dirigé la mise en onde. Wagner Roberts était à la console. Au micro, ici Idrissa Sedoudia et Claire Morin-Gibourg. Merci à tous de votre fidélité. Laissez-nous vos messages sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. À très bientôt.